À l'écoute de RFI 19h, ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mardi 22 avril, bonsoir à tous, prenez place pour la session soirée de l'info sur RFI. Encore un beau programme pour les 3 heures à venir, voici les temps forts qui vous attendent. Accent d'Europe dans 10 minutes, qui évoquera ce soir les disparus du Kosovo, 3 décennies après les guerres des années 90. Et Accent d'Europe qui sera également en Roumanie, à un peu plus de 10 jours de l'élection présidentielle, qui pourrait voir l'extrême droite encore progresser. Juste après, eh bien, ce sera le débat du jour. Et la question, déjà, de la succession du pape, qui se pose au lendemain de sa mort. Qui après François? Est-ce qu'il faut s'attendre à un pape réformateur, un peu dans le sillage de François, ce qui permettrait de faire aboutir les réformes que ce dernier a lancées, ou bien une figure plus traditionnelle, plus conservatrice, symbole finalement des résistances qui perdurent au sein de l'Église? Eh bien, réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir, Christophe Paget, et le dossier ce soir qui sera consacré aux inquiétudes pour l'économie mondiale, inquiétudes exprimées aujourd'hui par le FMI, le Fonds Monétaire International, qui estime que la guerre commerciale du président américain Donald Trump pourrait fortement peser sur l'activité économique mondiale. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition, à la une le lancement à Accra aujourd'hui au Ghana des célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO. Et puis 19h10 temps universel, et bien ce soir c'est mardi politique, l'invité sera Laurent Jacobelli, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, député RN de la Moselle. Enfin, le grand reportage, ça ce sera à partir de 19h30 TU, qui sera ce soir en Birmanie, près d'un mois après le séisme, un peuple entre dévastation et résilience. Voilà pour le programme et pour l'heure, 17h de temps universel, c'est le journal d'Alban Le Prince. Bonsoir Alban.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Et à la une ce soir, la liste des dirigeants qui assisteront aux funérailles du pape François samedi, qui continue de s'allonger.
Et notamment le chef d'État français Emmanuel Macron, qui sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en plein déplacement sur l'île de La Réunion pour constater les dégâts du cyclone Garance et de l'épidémie de chikungunya qui a fait 7 morts depuis le début de l'année. Emmanuel Macron a donc décidé d'écourter sa tournée de 5 jours dans l'océan Indien. Valérie Gass.
Lutter contre le chikungunya à La Réunion, c'est actuellement un des enjeux pour le gouvernement. Emmanuel Macron a donc voulu voir sur le terrain comment s'organiser la lutte contre ce fléau qui a déjà touché sur place au moins 100 000 personnes. Il s'est rendu à Saint-Benoît où était notamment organisée une opération de sensibilisation dans une école. Car l'enjeu, c'est d'abord la prévention, mais aussi la vaccination, comme l'explique le chef de l'État.
La France est le premier pays au monde à avoir acheté autant de doses disponibles de ce tout nouveau vaccin. Et donc maintenant, il est non seulement diffusé, mais il est également pris en charge pour les personnes adultes avec une comorbidité ou pour les plus de 65 ans, qui sont les plus vulnérables. Maintenant, il faut aussi avoir toutes les mesures de protection et de prévention, surtout pour les mamans enceintes.
Emmanuel Macron a aussi voulu montrer que l'État était en action.
Tout ce qui doit être fait de toute façon sera fait, comme on le fait à chaque fois. Et donc là, on a procédé à des renforts, vous savez, à Mayotte, et à des vaccins qui ont été aussi transférés. Et ici, à La Réunion, si des renforts sont nécessaires, ils seront mis en place. C'est ce que le ministre va évaluer tout à l'heure avec les équipes.
Le chikungunya est une priorité sanitaire à La Réunion. Valérie Gass, La Réunion. RFI.
Et alors que des dizaines de milliers de fidèles espèrent pouvoir accéder à la place Saint-Pierre samedi, Emmanuel Macron le disait, y assistera, il ne sera pas le seul. Bonsoir Juliette Chénion.
Bonsoir Alban.
Chef d'État, de gouvernement, d'organisation, des dizaines de dirigeants d'ores et déjà annoncé leur intention d'être présents.
À commencer, oui, par le président des États-Unis, Donald Trump s'est dit hier déjà impatient d'être à Rome pour les obsèques du pape François, qui avait pourtant vivement critiqué sa politique migratoire. Le président Trump devrait croiser son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, alors que le chef d'État américain doit dévoiler sous peu un plan de paix concernant la guerre en Ukraine. Le dirigeant russe Vladimir Poutine, lui sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, ne se rendra pas en Italie. La plupart des pays de l'Union européenne seront bien représentés samedi place Saint-Pierre, avec par exemple le chancelier allemand ou le président polonais. Sont attendus aussi des têtes couronnées, le prince William, le roi Felipe et la reine Laetitia d'Espagne. De l'autre côté de l'Atlantique, le président Lula Lula fera le déplacement depuis le Brésil, tout comme Javier Milei, dirigeant de l'Argentine, la terre natale du pape François, même si les deux hommes avaient eu une relation houleuse. Enfin, même le Timor oriental, petit état d'Asie, à plus de 12 500 km de Rome, sera représenté par son président et un ministre.
Et à l'instant, Volodymyr Zelensky dit qu'il voudrait rencontrer Donald Trump au Vatican cette semaine. Merci Juliette Chénion. Et avant les funérailles du pape samedi, les dignitaires du Vatican sont les premiers à pouvoir se recueillir devant la dépouille du souverain pontife dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe. Et ce n'est qu'à partir de demain que son corps sera exposé au public dans la basilique Saint-Pierre. Plusieurs pays ont également annoncé une période de deuil national. 2 jours au Portugal, samedi en Pologne, date de ses obsèques, et 5 jours en Italie. En France, les services du Premier ministre ont annoncé tout à l'heure que les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics samedi. Kiev ne discute pas d'une nouvelle aide américaine avec Donald Trump. Déclaration de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui affirme néanmoins être prêt à discuter directement avec Moscou après un cessez-le-feu et sous n'importe quel format. La chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, a quant à elle estimé aujourd'hui que les États-Unis n'avaient pas utilisé tous les outils à leur disposition pour mettre la pression sur la Russie, qui n'a selon elle pas respecté la trêve de Pâques ordonnée par Vladimir Poutine. J.D. Vance, le vice-président américain, parle d'une attaque terroriste dévastatrice. Narendra Modi, le premier ministre indien, lui dénonce un acte odieux et promet que les assaillants seront traduits en justice. Réaction alors qu'une attaque a fait au moins 24 morts aujourd'hui dans le Cachemire indien, des touristes tués par balles par des hommes armés. Un bilan dressé par un policier qui a souhaité rester anonyme. Aucun chiffre officiel n'a cependant été communiqué, mais il s'agit, selon les autorités, de l'une des pires attaques visant des civils depuis des années. Les explications de Yelena Tomic.
Selon la presse indienne, les assaillants, dont on ignore toujours l'identité, ont ouvert le feu sur des touristes qui visitaient la vallée de Baisaran, à environ 4 km du site touristique de Pahalgam, dénommé la Petite Suisse pour ses paysages époustouflants. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cette attaque, qualifiée de terroriste par plusieurs responsables indiens qui parlent d'actes lâches et ignobles contre des civils. Le premier ministre indien Narendra Modi a promis que les responsables seraient traduits en justice. Cette attaque risque de porter un coup sévère au Cachemire que les autorités indiennes s'étaient efforcées de promouvoir comme destination touristique depuis que l'Inde a annulé l'autonomie partielle du Cachemire en 2019 et imposé un contrôle direct du territoire. Environ 3,5 millions de touristes ont visité la région l'an dernier, en majorité des Indiens. Depuis 1989, le Cachemire, à majorité musulmane, est en proie à une insurrection, des rebelles réclamant son indépendance. New Delhi accuse régulièrement le Pakistan de soutenir les combattants, des accusations rejetée par Islamabad, qui affirme seulement soutenir l'autodétermination du Cachemire.
Yelena Tomic. C'est une première. Les universités américaines font bloc contre Donald Trump. Yale, Harvard, Princeton, elles sont des dizaines à dénoncer aujourd'hui l'interférence politique de l'administration américaine. Alors qu'Harvard, membre de l'Ivy League, qui regroupe 8 des plus prestigieuses universités américaines, a attaqué hier l'administration Trump en justice après sa décision de geler 2,2 milliards de dollars de subventions. Mais le président américain va plus loin et menace désormais de supprimer l'exemption d'impôt accordé à l'université qu'il accuse de ne pas assez lutter contre l'antisémitisme. Et puis nous sommes le 22 avril et comme chaque année, c'est la journée de la Terre. Elle a habituellement lieu aux États-Unis et pour cette édition, les militants veulent toucher le plus de monde possible. Pour cela, ils organisent des dizaines d'événements, marches pacifiques, conférences, projections de films. L'objectif cette année, c'est de dénoncer la politique de Trump. Jeff Levy Lyons, co-directeur de l'antenne new-yorkaise du Réseau juif d'Action pour le Climat.
On essaye de se rattacher à la première journée de la Terre qui a eu lieu en 1970. Elle a rassemblé 22 millions de personnes, ce qui est énorme pour une mobilisation publique. Il y a eu des manifestations, des rassemblements, des conférences ont été organisées, et tout cela s'est déroulé sous une administration républicaine, celle de Richard Nixon, qui était président à l'époque. À la base, vous n'auriez pas lié Nixon et la défense de l'environnement. Mais les gens étaient tellement nombreux à descendre dans la rue qu'il n'a pas eu le choix. C'est ce qui a conduit à l'adoption des lois sur la qualité de l'air et de l'eau peu de temps après. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1970. La composition politique et la division partisane dans ce pays se sont aggravées de manière exponentielle. Mais on a l'impression que si la mobilisation en 1970 a conduit à des changements, alors nous devons protester à nouveau, même si la route est plus difficile aujourd'hui.
Des propos recueillis par Pauline Berger pour RFI. Il est 19h09 à Paris, 17h09 en temps universel. Merci d'avoir écouté ce journal.